Bien, bonjour à chacun. Oui, c'est pas Alexandre, comme vous voyez. Peut-être c'est une version plus vieille d'Alexandre, mais ce matin, c'est pas Alexandre. Et comme plusieurs d'entre vous savez, notre frère Normand est à Casemun ce matin. Alors, certainement que ils vont avoir un bon temps là-bas aussi. Alors, on va se pencher sur la parole de Dieu ce matin. C'est un privilège à chaque fois de d'amener une prédication, un message. Puis en même temps, c'est tout le temps un temps de difficile dans la semaine quand on se prépare. On se demande toujours, qu'est-ce que Dieu veut que je partage ce matin, ce dimanche matin? Alors, ce matin, on va parler d'un sujet, tant qu'à moi, qui est primordial, qui est le plus important dans chacun de nos vies. Que fait-on quand on trouve quelque chose qui a une grande valeur? Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez trouvé quelque chose d'une grande valeur? Peut-être que c'était, pour certains, un jeune couple qui reste en appartement un peu trop serré, pas très bien décoré, et que là, vous avez vu une petite maison qui vous accommoderait parfaitement. Elle est bien décorée, elle est propre. Le paysagement a été terminé récemment, ils ont peinturé et là, ils veulent vendre la maison. Et vous dites, c'est mon rêve, n'est-ce pas? Alors, parfois, on doit se défaire de certaines choses, peut-être de certains biens. Parfois, on va aller même voir les parents pour avoir une aide pour le paiement initial. Je suis certain que c'est arrivé à quelques-uns d'entre vous ici ce matin. Ou bien, peut-être c'est un jeune homme, une jeune fille qui rencontre la jeune fille de sa vie. En tout cas, il le croit sincèrement. Et là, il est prêt à tout délaisser, n'est-ce pas? Les amis qu'il tenait chers, les relations qu'il avait, les activités peut-être sportives, même regarder le hockey, le délaisse de côté pour cette personne qui a beaucoup de valeur à ses yeux. C'est ça, Danny? C'est arrivé? Oui. Ou un jeune homme qui voit l'auto de son rêve. J'ai constaté à travers les années que parfois l'auto de son rêve, c'est loin d'être la meilleure auto pour lui, mais là, c'est vraiment l'auto de son rêve. Eh bien, le Seigneur nous résume ce qu'on fait quand on trouve quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et dans Matthieu 13, 44, on lit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Eh bien, l'apôtre Paul a trouvé un tel trésor sur le chemin d'Emmaüs, le chemin de Damas. Et si vous allez dans Actes 9, le verset 3 et la suite, on voit que comme l'apôtre Paul, Saül, comme il s'appelait à ce moment-là, était en chemin, il s'approchait de Damas et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Imaginez-vous l'impact sur l'apôtre Paul. On voit que peu de temps après sa rencontre avec Ananias, il a déjà commencé à prêcher l'Évangile dans les synagogues. Et il prêchait que Jésus est le Fils de Dieu. Chapitre 9, verset 20. Et après s'être fortifié, de plus en plus, on lit au verset 22, « Eh bien, j'imagine qu'après avoir vu cette lumière, l'apparition de Jésus devant lui, que Paul a scruté les Écritures qu'il avait bien connues, qu'il avait scruté lui-même, dans lesquelles il avait été enseigné. Mais là, ces mêmes Écritures prenaient tout un autre sens. Et après s'être fortifié, eh bien, il confondait les Juifs qui habitait Damas en démontrant que Jésus est le Messie. C'est ce qu'il avait fait lui-même, persécuter ceux qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Eh bien, quand on lit ce que dit l'apôtre Paul, on peut comprendre la grande valeur que cette apparition de Jésus avait dans sa vie. Même lors du procès de Jésus, on croit que Paul, malgré son jeune âge, était peut-être membre du Sanhédrin. En tout cas, il était proche, il était dans l'entourage. Et Paul aurait vu les faux témoignages. Il aurait vu Caïphe finalement condamner Jésus. Dans Actes 5, quand Pierre et Jean sont arrêtés, eh bien, Paul aurait été faisant partie du groupe qui voulait qu'il soit arrêté. Et l'ont entendu Gamaliel dire, « Laissez faire, laissez-les aller ces gars-là. Peut-être qu'ils sont envoyés de Dieu. Sinon, ils vont disparaître. » Et l'a entendu cela. Et malgré cela, on sait que le Sanhédrin a fait battre Pierre et Jean. Dans Acte 6, on voit que Paul a été prenant de l'arrestation d'Étienne, le disciple de Jésus-Christ. On sait que lorsque Étienne a commencé à prêcher l'Évangile, eh bien, plusieurs sont venus à lui. Son message était irrésistible. Ça l'a irrité, les dirigeants juifs. Ils ont fait arrêter Étienne. Et pendant le procès d'Étienne, eh bien, Étienne leur a expliqué l'Ancien Testament, qu'il connaissait bien, mais avec la lumière que Christ était maintenant venu sur cette terre. Quand ils entendirent Étienne, on dit au verset 54 du chapitre 7 qu'ils eurent le cœur plein de rage. Au verset 58, on voit que ceux qui étaient pour lapider Étienne ont mis leurs vêtements aux pieds d'un homme appelé Saul. Au chapitre 8, les versets 1 à 3, on voit que Saul avait approuvé l'exécution d'Étienne. Et c'est suite à cette exécution-là que l'Église de Jésus-Christ a été dispersée. Au chapitre 9, versets 1 et 2, Saul obtient l'approbation d'arrêter les partisans de cette secte. Certainement que Paul, maintenant qu'il a vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, était attristé. Et on voit ce qu'il dit à propos de lui-même dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Il dira que Christ lui est apparu à lui qui était comme un avorton. Et au verset 9, il dira, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuter l'Église de Dieu. » Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 8, il dira, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Et dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, il dira, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » D'une part, il y a une vision de Jésus-Christ. Il réalise la grâce, la miséricorde que Dieu a eue envers lui. Et d'autant plus, la valeur est élevée lorsqu'il considère lui-même son arrière-plan, sa vie jusqu'à ce jour-là, n'est-ce pas? Il y a deux passages dans lesquels Paul nous décrira comment il est venu à se détourner de sa vie ancienne et de se tourner vers le Seigneur. Il y a au chapitre 3, verset 16, où il est en train de décrire son ministère et en même temps se défendre auprès de ceux qui l'accusent. Il dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, il aurait pu dire, « Lorsque moi, Paul, je me suis converti au Seigneur. » Le voile est ôté. Pendant des années, Paul avait été pharisien. Il cherchait à obéir la loi juive. Il n'avait pas saisi que Jésus-Christ était le Messie. Mais là, le voile était ôté. En même temps qu'il se tournait vers le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pensez à toutes les règles que lui et sa secte avaient imposées afin d'être juste devant Dieu. Eh bien, maintenant, il comprenait qu'il en était esclave du péché, mais que là, en Jésus-Christ, il avait le pouvoir sur le péché. Au verset 18, il dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. » Et au chapitre 4, verset 6, il dira, « Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Eh bien, j'ai pensé faire un dessin. C'est pas trop artistique. J'ai eu beaucoup de misère à trouver la lumière. Mais nous avons dans ces versets-là Dieu. Nous avons Christ. Et nous avons le croyant. Et Paul dit le cœur du croyant. Et on voit que quand Dieu fait un travail dans le cœur du croyant, quand il fait briller la lumière de son évangile dans le cœur du croyant, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Le voile est enlevé. Et le croyant peut voir Christ, peut voir vraiment la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Comment est-ce que cette lumière brille dans nos cœurs? Eh bien, l'enseignement de la parole, par son évangile, par le travail du Saint-Esprit, Dieu qui enlève le voile, et vous vous souviendrez qu'après sa vision sur le chemin de Damas, qu'il avait comme des écailles aux yeux, qui représentent un peu comment la lumière a brillé chez lui. Il lui a fait comprendre un paquet de choses. Et on voit la gloire de Dieu indirectement, pas directement. C'est Christ que Dieu a envoyé sur cette terre, afin qu'on puisse saisir la grandeur de Dieu. Mais la conséquence de tout cela, c'est que Dieu, par son esprit, fait un travail dans la vie du croyant, dans ma vie, et qu'on devient de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. De plus en plus, on agit, on parle, comme Jésus-Christ lui-même agirait. Dans la sommaire, on dit... L'Esprit de Dieu, nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. On pourrait dire que cette première étape de gloire en gloire, c'est quand on s'est tourné vers le Seigneur. La dernière étape, ça va être quand je vais laisser cette terre ou que le Seigneur va revenir et je vais être en sa présence. Et entre ces deux étapes-là, il y aura plusieurs étapes où Dieu change son enfant. Où Dieu change Gilles. Mais je ne suis pas arrivé encore. Et je suis loin d'être arrivé. Eh bien, Dieu fait briller sa lumière dans nos cœurs. Nous sommes dans les ténèbres jusqu'à ce que Dieu fasse briller cette lumière de l'Évangile dans nos cœurs. Et il est le seul qui peut chasser les ténèbres du péché et de l'ignorance, n'est-ce pas? Il mentionne dans Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Paul est débordant de gratitude envers Dieu, de ce qu'il a accompli. Il rend grâce au Père qui l'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » John MacArthur mentionne dans son commentaire sur 2 Corinthiens, sur ce passage, il dit, « Lorsque Dieu, dans sa souveraineté, fait briller cette lumière dans les cœurs assombris par le péché, au moyen de la prédication de l'Évangile, elle procure la vraie connaissance de l'identité de Christ, à savoir qu'il est Dieu incarné et que la gloire de Dieu resplendit parfaitement sur sa face. Transformé de gloire en gloire, une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Paul était débordant de joie, reconnaissant au centuple. Il connaissait la valeur du salut maintenant, mais en plus, il voyait comment Dieu l'avait choisi pour un ministère bien particulier, d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, à ceux qui n'étaient pas circoncis. Lui, qui se voyait comme le plus grand des pécheurs, le moins méritant de tous les saints, non seulement est-ce que Dieu avait enlevé sa colère de sur Paul, mais il l'avait choisi pour un ministère aussi important et glorieux. Malgré un arrière-plan, malgré un CV qui n'était pas très reluisant, n'est-ce pas? Il mentionne sa reconnaissance à plusieurs endroits et de plusieurs façons. Et j'aimerais passer par 3 versets dans lesquels Paul nous montre à quel point il considère le salut en Christ, mais aussi le ministère que Dieu lui a donné comme étant un trésor inestimable. Et dans Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'était tellement important que tout ce qui était sa vie n'avait plus aucune importance. Il voulait vivre pour Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il dit, « Nous nous efforçons de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. » Et dans 2 Corinthiens 5, 14, qui est un verset qu'on doit tous apprendre par cœur, tant qu'à moi, il dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Est-ce que vous voyez ce qui pousse l'apôtre Paul à être dans la joie? La grandeur de son salut. Lui qui n'était aucunement méritant de cela. Ce qu'il voit, ce qu'il a compris sur le chemin de Damas, c'est à quel point l'amour de Dieu était grand. À quel point Dieu avait été bon et miséricordieux à son égard. Eh bien, nous allons nous attarder aujourd'hui dans 2 Corinthiens principalement, et surtout dans le chapitre 4, les versets 1 à 6. Et on va voir que Paul va défendre son apostolat ainsi que son ministère. Il y a des faux apôtres qui sont allés à Corinthe. Ils ont fait un ravage là-bas et ils avaient comme but de discréditer le message de l'Évangile tel qu'apporté par Paul, mais aussi discréditer Paul comme individu, comme un homme. Et dans sa défense, Paul exprimera sa reconnaissance envers le Seigneur pour son salut et son ministère. Et si vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dira, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Il est reconnaissant à Dieu. C'est Dieu qui permet cela. Et c'est Dieu qui utilise Paul et le croyant comme une odeur. Et il va dire plus tard, une odeur pour la vie, mais aussi pour la mort de ceux qui rejettent cette odeur-là. Au chapitre 3, verset 5 de 2 Corinthiens, il mentionne que lui-même n'est pas capable de faire quoi que ce soit dans ce ministère-là, mais à la fin du verset 5, il dit « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Au chapitre 4, qui est le premier verset de la section qu'on va voir, il dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, pas quelque chose qu'il mérite, le salut et ni non plus le ministère qu'il avait. » Et au verset 7 du chapitre 4, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Donc, il rappelle l'importance de cet évangile qu'il a. Il le considère comme un trésor. Paul a saisi l'évangile comme quelqu'un qui a trouvé un trésor de grand prix, de grande valeur, et a tout mis de côté. Et dans Philippiens, il nous communique clairement cette vérité. On va laisser faire les versets 4 jusqu'à 7. Ça nous démontre le contexte un peu de ce que Paul va dire. Et après indiquer l'héritage qu'il a eu en tant que juif, en tant que pharisien, il va dire, et même je regarde toutes ces choses, toutes les choses qu'il a mentionnées dans les versets 1 jusqu'à 7, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Quel passage! Eh bien, dans l'Épître aux Éphésiens, qui est pas très loin, Paul explose pour partager aux chrétiens d'Éphèse ce qu'il a compris. Et on a vu pas mal ces passages-là, parce que Normand a parlé, a fait une série sur Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 16 à 19, il dit au verset 16, il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières. » Et au verset 18, il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et Paul passe beaucoup de temps à nous rappeler la grandeur de ce salut que nous avons en Christ. Mais tout de suite, dans Éphésiens chapitre 2, il nous rappelle qu'on n'était pas méritant. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Et Paul rappelle à tous les Éphésiens qui sont croyants, qui sont venus au Seigneur, qu'il ne méritait que la colère de Dieu. Mais, à partir du verset 4, il parlera de la bonté du Seigneur à cet égard-là. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul était prêt à tout laisser pour le salut en Christ. Il avait compris la colère de Dieu qui était sur lui. Il avait compris, saisi l'amour de Dieu. Il était prêt à tout laisser. Et en plus, il voyait à quel point il était coupable. Et je dirais, il se voyait coupable que n'importe quel autre saint, car il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ. Paul était reconnaissant de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Vous me direz, oui, peut-être que c'est Paul qui peut avoir cette reconnaissance-là. Mais est-ce que le chrétien moyen, est-ce que le Gilles, est-ce que le Sylvain, est-ce que le Robert, est-ce que le Pierre peut aussi être reconnaissant pour un tel salut et pour un tel ministère que Dieu nous a laissé à chacun? Eh bien, je ne crois pas que Paul voudrait que vous le voyiez comme quelqu'un qui est presque égal à Jésus-Christ. Au contraire, bien des endroits, il va chercher à s'abaisser, comme on a vu. Et il ne voulait pas non plus apparaître comme le super apôtre. Aux Corinthiens, au chapitre 1, chapitre 2, verset 3, il dira, je me suis présenté devant vous, faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, aux yeux des hommes, il n'avait pas l'air très éloquent, très logique, très bon pour présenter des arguments. Au chapitre 2, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 10, il dira, « Je suis faible. Vous dites, je suis faible et sa parole est méprisable. » Paul ne voudrait pas que vous ayez de lui une trop haute opinion, sauf celle d'un homme qui ne méritait pas ni le salut en Jésus-Christ et ni le ministère que Dieu lui avait confié. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 6, lorsqu'il parle d'une vision qu'un homme a eue, qui était lui en réalité, il dit, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Pourquoi? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. » Paul se met pas sur un piédestal. Il se met égal à chacun et peut-être même plus bas. La réaction de Paul, sa joie, sa reconnaissance devant le salut qu'il a, est celle qu'on doit avoir. Sa reconnaissance, sa joie devant le ministère que Dieu lui a confié, est aussi celle que nous devrions avoir. Il y a une citation d'un puritain anglais, d'un théologien, John Owen. C'est un jeune homme, je pense qu'il avait 67 ans à ce moment-là, mais ça fait quelque temps qu'il a vécu. il dit, il existe deux choses qui concourent à humilier l'âme des hommes. Une considération appropriée de la personne de Dieu, puis de nous-mêmes. De Dieu, dans sa grandeur, sa gloire, sa sainteté, sa puissance, sa majesté et son autorité. De nous-mêmes, dans notre bassesse, dans notre nature pécheresse et notre condition abjecte. C'est à peu près comme ça que Paul a vu Dieu sur le chemin de Damas. Et comment il s'est vu lui-même sur le chemin de Damas. Et c'est comme ça aussi que chaque personne ici qui s'est tournée vers le Seigneur, lorsqu'il s'est converti, chaque personne a vu Dieu avec ses yeux-là. Et s'est vu lui-même comme un pécheur qui ne méritait que la mort. Mais dans son amour, dans sa bonté, Christ est venu régler le problème qu'il avait. Voyant la grâce de Dieu à son égard, Paul ne veut plus vivre pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que Paul a répondu à une telle bonté de la part de Dieu, à une telle grâce de la part du Seigneur? Eh bien, lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 6. C'est pourquoi, faisant référence à l'Évangile qu'il avait reçu, au ministère qu'il avait, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, c'est-à-dire hypocrite, rusée, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Prions, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, quel salut nous avons en toi. Quel amour tu as manifesté. Et ce matin, Seigneur, on veut voir un peu comment l'apôtre Paul a été saisi et comment il a répondu devant cette grande bonté de ta part. Seigneur, dirige-nous que chacun de nos corps, le mien en premier, puisse avoir cette même joie, cette même reconnaissance de ta bonté pour le salut que tu nous as donné et pour le ministère que tu nous as réservé. Seigneur, dirige les paroles, dirige ce qu'on va voir ce matin, que ce ne soit pas moi, Seigneur, que ce soit ton esprit qui travaille le cœur de chaque personne, incluant moi. En ton nom. Amen. Paul n'a pas lancé la serviette. Et la raison qu'il ne l'a pas lancé, c'est parce que c'était peu de choses comparées à la valeur du salut en Jésus-Christ, à l'importance du ministère que Dieu lui avait confié à lui. Bien, peu d'entre nous, on a subi de telles épreuves. Et certains d'entre nous ont fait face à des épreuves quand même assez grandes. Rejetés, accusés faussement, maladies peut-être. Le mépris et le rejet, je dirais que c'est ce qui vient nous toucher ici, en Amérique du Nord. Et parfois, on est chassé d'un ministère qui nous est important. Mais il ne faut pas lâcher. Mais en 2014, il y en a des gens qui font encore face à la persécution et qui sont mis à mort. Et on entend parler des pays ailleurs qu'en Amérique du Nord. Mais il y a encore persécution. Je voyais dans les dernières semaines comment il y a des ordres d'avocats qui se lèvent contre les universités, les collèges chrétiens qui ont un programme pour produire des avocats. Et ils se lèvent pour empêcher que ces avocats-là soient reconnus parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, parce qu'ils croient que l'homosexualité, c'est un péché, parce qu'ils croient que l'avortement, c'est un meurtre. Alors, ils se lèvent disant qu'il est impossible pour quelqu'un qui a cette foi-là d'agir comme un avocat. Donc, la persécution, le martyre, la mort existent encore. Mais on ne doit pas perdre courage. On doit demeurer ferme. Et pas avec le sentiment d'obligation, pas, en réaction devant l'amour de Dieu, devant sa bonté à notre égard. Comment elle a donné sa propre vie afin que je puisse être réconcilié. Ça doit être notre motivation. La conversion de Paul, le ministère que Dieu lui a confié, le pousse à persévérer dans les plus grandes difficultés. Mais la réponse de Paul ne s'arrête pas là. Il dira au verset 2, « Nous rejetons des choses. » Et il rejette une conduite qui n'est pas agréable à Dieu. Et il rejette aussi tout ce qui pourrait être représenté l'Évangile incorrectement. Ah, certainement que Paul, dans ses versets, cherchait à répondre à ceux qui l'accusaient. Il dit, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. » Et les gens accusaient Paul de dire, « Non, moi, je ne veux pas accepter de salaire. » Mais quand ses collègues, ses collaborateurs recevaient une offrande pour aller mener à Jérusalem, que là, Paul, en secret, remplissait ses poches. Il disait que Paul était hypocrite de cette façon-là. Et Paul dit, non, je n'ai pas une telle conduite. Il l'avait eue. Il connaissait l'hypocrisie des pharisiens, étant pharisien lui-même. Mais il dit, j'ai abandonné cela. On voit que on pourrait inclure dans ces mêmes, dans ce même verset, l'abandon de comportements immoral, scandaleux, déshonorants. On pourrait les inclure. Et certainement que Paul rejetterait, abandonnerait ce genre de comportement. À cause de sa conversion, Paul a rejeté ce comportement-là. Il a mis fin à cela. Et nous avons bien des domaines dans lesquels on doit rejeter, nous aussi, si on est un enfant de Dieu. Pas parce que des commandements qui disent « fais pas ci, fais pas ça », mais parce qu'on veut plaire à Dieu. L'apôtre Pierre dit dans son épître au chapitre 1, versets 13 et 16, « Tout de suite après avoir parlé de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée de ce que Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Abandonnez ce genre de comportement-là quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque cela, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Ayant les regards sur Christ, Paul perd pas courage, persévère. Il rejette un comportement honteux et hypocrite et prend bien soin de ne pas modifier le message de l'Évangile. Et là aussi, il y a des faux apôtres qui accusaient Paul de changer l'Évangile, de changer l'Ancien Testament, l'enseignement de l'Ancien Testament. C'était probablement des chrétiens venus du judaïsme, donc des juifs au départ, et qui se sont convertis et que là, qui s'objectaient lorsque Paul disait que la circoncision n'était pas nécessaire pour ceux qui se convertissaient d'un milieu non-juif. Qu'ils n'avaient pas besoin de suivre tous les rituels juifs pour être un enfant de Dieu. Donc, ils l'accusaient d'altérer la parole de Dieu. Mais Paul va dire, je prends bien soin de l'altérer. Il avait même mentionné au chapitre 2, verset 17, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, dont loin de lui-même en être coupable. » Il rappelle que ce sont les faux apôtres qui altèrent l'Évangile. Et bien de même que Paul, nous voulons nous garder de compromettre l'Évangile pour plaire aux hommes de notre temps, et que c'est facile. La tentation est grande d'éviter certains sujets qui déplaisent en 2014. Un Dieu créateur à qui on va rendre compte, c'est pas un sujet populaire. J'ai mentionné au dernier service que nous avons eu, dernier service funéraire qu'on a eu, j'ai mentionné qu'à plusieurs fois, quand j'ai assisté et que j'étais dans la salle, en train d'écouter le prédicateur qui faisait mention de Dieu, de la colère de Dieu, qui mention du péché. Il y avait dans les rangées, en avant, les gens autour de moi qui ne sont pas des enfants de Dieu, raillerie. Des cauchemars de tête, c'est pas possible qu'en 2014, qu'on soit assez fou pour parler de ces sujets-là. Eh bien, la tentation est grande. Et quoi dire? Du sujet de l'avortement, l'homosexualité. Il faut faire attention quand on le dit, parce qu'on pourrait être accusé comme les séminaires ou les collèges chrétiens qui ont une faculté pour produire des avocats. Mais comme l'apôtre Paul, notre conversion au Seigneur, notre ministère nous amène à ne pas perdre courage, à avoir une conduite digne de Jésus-Christ. Et à ne pas modifier la parole de Dieu. Loin de la modifier, au verset 4, il dit, « Publiez la vérité. » Eh bien, Paul présente donc le message de l'Évangile d'une façon claire, d'une façon simple. Il n'évite pas les sujets. Il mentionnera, quand il s'adresse aux anciens d'Éphèse, qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Saute pas des sujets. Il cherche à couvrir tous les sujets, et en particulier ceux qui vont amener les gens à l'Évangile. Paul présente Christ crucifié d'une façon claire et simple. Il est un instrument dans les mains de Dieu. Il reconnaît en même temps que c'est pas lui qui enlève le voile. Et si vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il reconnaît que malgré qu'il va présenter l'Évangile d'une façon claire, d'une façon simple, eh bien, il dira que pas tous viendront à Christ. Pour certains, l'Évangile est encore voilé, au verset 3. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pas ceux qui sont des enfants de Dieu, pas ceux qui hériteront la vie éternelle, mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et au chapitre 3, il dira que les Juifs, même aujourd'hui, quand ils lisent l'Ancien Testament, sont encore voilés. Et je suis certain que l'apôtre est grandement attristé de cela. Mais son travail à lui, c'est de publier la vérité. Et le travail de Dieu, c'est d'enlever le voile et de faire briller dans les cœurs la vérité de l'Évangile. Donc, on est conscient aussi que quand on se tourne, lorsqu'une personne se tourne vers Christ, se convertit, ça ne peut jamais être une décision qui est purement humaine. Dieu doit intervenir. Dieu doit enlever le voile. Mais en même temps, la personne doit décider de suivre Jésus-Christ et doit croire. Et comme cela, elle reçoit le salut de Christ. En 2014, comme au temps de Paul, la tentation est grande d'altérer le message de l'Évangile dans le but de plaire aux oreilles du monde. C'est facile d'enlever tout ce qui déplaît, tout ce qui irrite les gens, et d'avoir peut-être un message qui est moraliste, qui est humain, qui donne l'impression que, vous savez, vous êtes pas mal capable de prendre soin de vous-même. Vous n'avez juste qu'à suivre certaines règles. Mais la vérité, c'est que chacun de nous, on est condamné, à moins qu'on mette notre foi en Jésus-Christ. Et on doit demeurer fidèle à ce message-là. Notre prédication doit être Christ crucifié. Et ne soyez pas étonnés si on se moque de vous, si au travail, si dans votre famille, on se dit, non, mais c'est-tu possible que tu sois si arriéré, n'est-ce pas? Hein? Si dépendant d'une béquille comme celle-là. Mais comme l'apôtre Paul, nous voulons publier la vérité clairement et simplement et laisser à Dieu de faire le travail, d'enlever le voile et de faire briller sa lumière sur les cœurs. Nous devons être vigilants et veiller constamment que le message de l'Évangile n'est pas changé. Et on voit que dans 2 Corinthiens au chapitre 11, qu'il y avait déjà des gens qui présentaient un autre esprit, un autre Jésus, un autre Évangile. Et il y en a encore plus aujourd'hui. Ils ne s'annoncent pas autant comme étant des apôtres, par contre, c'est encore plus subtil. Lorsque Paul considère la bonté et la grâce du Seigneur démontrée dans le salut qu'il a en Christ, dans le ministère que Dieu lui a confié, ça lui donne la capacité de persévérer dans l'épreuve, de rejeter des comportements qui ne sont pas agréables à Dieu, de veiller à ne pas modifier la parole de Dieu pour plaire aux hommes, mais de publier la vérité sans compromis. Au verset 5, il mentionnera une autre réponse à la grâce de Dieu. Et il dit, nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Les opposants de Paul aimaient les éloges. Ils aimaient être bien vus d'avoir la réputation d'orateur puissant. Ils s'imposaient même aux Corinthiens. Si vous regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et versets 19 à 29, on pourrait s'étonner de voir l'oppression qu'ils imposaient aux Corinthiens. Mais l'apôtre Paul fait tout autrement. Et il se recommande même aux Corinthiens. Ils lui disent, « Vous savez, vous, quel message j'ai prêché. Vous savez comment j'ai vécu parmi vous. » Et au lieu de prendre autorité sur eux, il nous dit au verset 5, « Non, j'ai été chez vous comme un serviteur ou un esclave même pour la cause de Jésus-Christ. » Au lieu de prendre autorité, il se fait serviteur pour la cause de Christ. C'est tout un contraste. Mais ceux qui, aujourd'hui, c'est tout un contraste non seulement avec les faux apôtres, mais c'est un contraste avec ceux qui sont en autorité ici, au pays, quand on voit ceux qui sont censés être des serviteurs pour les Gatinois, pour les Québécois, pour le peuple du Canada, et au contraire d'être des serviteurs, eh bien, ils sont plus intéressés à s'emplir les poches. Mais Paul prêchait Christ crucifié, et non Paul, l'apôtre. Regardez-moi, regardez ce que j'accomplis. Il nous donne dans un texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 10 à 12, une image, une fenêtre sur comment il était envers ceux à qui il avait annoncé l'Évangile. Et il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à sa gloire. De même que l'apôtre Paul, nous regardons à Christ étant reconnaissants pour le salut et le ministère que nous avons. Nous sommes poussés à nous comporter comme des esclaves de Christ, des serviteurs, des frères et des sœurs en Christ ici. Chacun de vous, pas juste les dirigeants. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, on veut vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Parce qu'on a saisi l'amour, la bonté. Paul exprime sa reconnaissance envers le Seigneur pour un si grand salut et un ministère que le Seigneur lui a confié de cinq manières, en n'abandonnant pas devant l'adversité, en rejetant une conduite honteuse, scandaleuse et hypocrite, en prenant soin de ne pas altérer la parole de Dieu, mais en publiant la vérité clairement et simplement, afin que plusieurs viennent à Christ par son ministère. En ayant une telle attitude d'humilité, de douceur et de serviteur à l'exemple de Jésus-Christ lui-même, selon ce qu'on peut voir dans Philippiens chapitre 2. Les versets de 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 18 et 4 et verset 6 du chapitre 4 qu'on a vu tantôt, eh bien, nous indiquent ce qui l'a motivé à répondre à la grâce, à la bonté de Dieu. N'est-ce pas? Il a vu la gloire de Dieu à travers le visage de Jésus-Christ. L'Évangile, l'Esprit a travaillé en lui et Paul, comme chacun des croyants, est transformé de gloire en gloire. Mais notre ministère, c'est celui-ci. Que les autres autour de nous, ceux qui sont encore dans les ténèbres, puissent avoir un peu la capacité de voir la gloire de Dieu. Hein? J'ai mis la ligne orange au lieu de jaune, parce que chacun de nous, chaque croyant, n'est pas encore arrivé à l'image de Christ. Il y a encore bien du travail à faire, mais malgré cela, notre ministère à chacun, c'est que par notre parole et par nos vies, qu'on puisse faire briller la gloire de Dieu envers tous ceux qui sont perdus. Que nous-mêmes, que nos vies agissent comme un miroir. Par sa prédication et sa vie, la lumière de Christ brille sur les cœurs qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils puissent voir la gloire du Seigneur et se tourner vers Dieu. À l'exemple de Paul, soyons remplis de reconnaissance pour Christ crucifié, qui est mort pour nous lorsque nous étions encore des enfants de colère, pour le ministère de resplendir sa gloire par nos paroles et notre vie aux hommes de notre génération, et pour l'espérance et l'héritage éternel qui est réservé pour chacun de ses enfants. Que son amour, sa bonté, sa miséricorde soient le moteur de notre réponse à notre salut. Le regard fixé sur la face de Christ nous permet de voir la gloire de Dieu et de vivre afin de resplendir cette gloire aux hommes qui nous regardent vivre. Paul était un pharisien. Il connaissait ce que c'était de suivre des règles. Il avait rejeté cela. Sa motivation, ce qui l'animait, c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu à son égard. Que ce soit ce qui nous motive dans chacun de nos vies. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on te remercie pour cet enseignement que tu nous donnes dans ta parole. Merci, Seigneur, de cet homme que tu as utilisé, cet homme qui était moindre de tous les saints, mais que tu es allé chercher et que tu as équipé et rendu capable. Et Seigneur, tu fais le même travail dans nos vies et tu nous as donné le même ministère qui est d'annoncer l'Évangile, de vivre pour toi devant les témoins de notre génération, ceux qui sont perdus. Seigneur, merci pour cette bonté, cette grâce à notre égard. Amen.